Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il ait repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander de qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Jésus, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Amen. Et non seulement il était nuit parce que c'était le soir, mais on peut dire que certainement aussi, évidemment, il faisait nuit, il faisait sombre, bien sombre, dans la vie de Judas. On pourrait intituler ce passage que nous avons lu, où Jésus lave les pieds de ses disciples, le langage de l'amour, le langage de l'amour. C'est difficile de parler d'amour dans les circonstances que notre pays vient de traverser. Mais l'Évangile est toujours un message d'amour. Et il y a un défi terrible que le Seigneur nous appelle à relever. Puisque dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 44, il dit « Aimez vos ennemis ». Voilà. Dans l'Ancien Testament, eh bien, il était question d'aimer son prochain. Et pour les Juifs, le prochain, c'était l'autre Juif. Et puis, c'est tout. Mais le Seigneur va plus loin, n'est-ce pas? Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, concernant ce passage, d'abord, il faut dire quelques mots du contexte, du climat, de l'ambiance. Le texte nous dit que c'était avant la fête de Pâques. On sait que lors de la fête de Pâques, eh bien, les Juifs, les Israélites, et Jésus était du nombre, célébraient la délivrance de l'esclavage qu'ils avaient connu en Égypte. Et il y avait là l'offrande de l'agneau pascal. L'agneau pascal qui avait permis justement que les Israélites soient épargnés lorsque l'ange destructeur était venu dans le pays d'Égypte et que les premiers-nés égyptiens avaient été frappés de mort. Le symbole devient l'accomplissement. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en lui, eh bien, la délivrance du péché et des conséquences du péché nous est offerte. Délivrance de l'esclavage du péché, de l'asservissement. Délivrance aussi de l'oppression diabolique qui s'exerce à l'égard des hommes. Délivrance de la souffrance. Délivrance de la mort. Et l'expiation de Christ qui va se faire dans quelques heures va permettre que le pardon soit offert à tous les hommes. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, ce matin, nous avons bénéficié de ce pardon. Les erreurs, les fautes, aussi grossières, aussi misérables qu'elles aient pu être dans notre passé, tout cela est enfoui, a été pardonné, purifié par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. La culpabilité est ôtée. La malédiction et la condamnation que nous méritions ne nous seront pas appliquées parce que cette condamnation, Jésus l'a subie à notre place. La scène qui est le signe de l'inauguration de la nouvelle alliance basée sur l'œuvre de Christ et scellée par son sang va être instituée au cours de cette soirée mémorable. Comme nous l'avons fait ce matin, Jésus prendra du pain et puis le rompant, il en donne à ses disciples en disant « Voilà, ceci est mon corps. » Et puis ensuite une coupe, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour vous tous. » Avant la fête de Pâques. Et le texte dit aussi « Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le projet de livrer Jésus. » La trahison de Judas va être consommée. Il y a là une inspiration, c'est vrai, d'origine diabolique. Et voyez, en acceptant le morceau trempé que Jésus lui tend, eh bien, c'est la dernière chance qui lui est offerte de se repentir. Si seulement Judas avait pu refuser ce morceau, en disant non, Seigneur, j'ai été misérable, et s'il était tombé sur sa face en implorant le pardon de Dieu, pour lui, il y avait encore, je le crois, possibilité d'être racheté. Mais en acceptant ce morceau trempé, eh bien, il a scellé son destin et le texte dit « Satan entra dans Judas ». Vous savez, pour que Satan entre, il n'entre pas comme ça. Il faut qu'une porte soit ouverte. Vous savez ça? Ah ouais. Et c'est pour ça que quelque part dans la Bible, il est dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Pour Judas, la porte d'entrée fut la cupidité, mais il y a d'autres portes. Eh bien, les portes de notre vie doivent lui être systématiquement et hermétiquement fermées afin qu'il n'entre pas et ne nous séduise pas. Il ne faut pas céder aux suggestions de l'adversaire, même quand il met, c'est bien souvent le cas, même quand il met la pression. Alors, dans ces circonstances, dans ce contexte que nous venons de définir, il est dit à propos de Jésus que, sachant que son heure était venue, il aima les siens qui étaient dans le monde, et il mit le comble à son amour pour eux. Nous avons d'une part la plus grande abjection, celle de Judas. Et nous avons de l'autre côté, gloire à Dieu, le plus grand amour, celui de Jésus. Il mit le comble à son amour. Il mit le comble à son amour. Ça, c'est la mesure de son amour. L'intensité de son amour. L'apôtre Paul nous dira dans l'Épître aux Éphésiens que l'amour de Dieu, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Vous comprenez, vous, pourquoi vous, Jésus vous a aimé? Vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a bien pu me trouver pour s'intéresser à moi? Si ce n'est le fait que, par définition, il est amour et je dirais un petit peu trivialement qu'il ne peut pas s'empêcher de nous aimer parce que cela correspond à sa nature la plus réelle, la plus profonde, la mesure, l'intensité de son amour. Oh mon ami, qui que tu sois, converti ou pas, que tu appartiennes à Jésus, que tu sois encore bien loin de lui, sache que tu es l'objet de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, d'un immense amour. Plus que l'amour que celle qui t'a mis au monde peut te manifester, même au-dessus, bien au-dessus de cet amour-là, il y a l'amour de Dieu. Une autre traduction dit « Il les aima jusqu'au bout ». Non seulement, voyez-vous, l'amour de Christ est un amour intense quant à sa mesure, mais aussi c'est un amour constant et permanent. Nous ne devons jamais douter de l'amour de Jésus. Je sais que nous pouvons passer par des épreuves bien rudes. Et les chrétiens ne sont pas à l'abri. Et il faut avoir l'honnêteté, le courage, la franchise de le reconnaître. Tout chrétien que nous sommes, nous pouvons connaître des drames. Mais même alors, eh bien, sachons que nous n'avons aucune raison de douter de l'amour de Jésus. Alors ce geste-là, ce geste qu'il accomplit dans ce texte que nous venons de lire, le lavage des pieds, est là une manifestation concrète et sublime de son amour. Alors, on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a dans ce geste? Qu'est-ce qu'il y a dans ce geste? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, il ôte ses vêtements. Il y a là le symbole de son dépouillement. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Philippiens, peut-être nous lirons le texte tout à l'heure au chapitre 2, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Jésus s'est dépouillé volontairement de l'éclat de sa gloire divine. Oh certes, il est toujours resté ce qu'il a toujours été. Il est Dieu et il n'a jamais cessé de l'être, même quand il était sur la terre des hommes. Cependant, on peut dire en quelque sorte que sa divinité a été comme voilée par son humanité. Il s'est dépouillé. Pour laver les pieds des disciples, eh bien, il a dû s'accroupir. C'est là le signe, le symbole de son abaissement. Le Fils de Dieu qui vient du ciel sur la terre. Le Seigneur n'a pas attendu que nous nous élevions jusqu'à lui. C'est lui qui est venu jusqu'à nous dans la condition la plus humble qu'il soit. Et il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. L'humilité la plus absolue de la part de celui qui pourtant est le plus grand. Il dira, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. C'est vrai, Jésus c'est le maître, c'est le tout-puissant, c'est le créateur de l'univers, vous savez ça? Toutes choses ont été créées au travers de la personne du Fils de Dieu. Il a été à l'œuvre, n'est-ce pas? Dès le départ de la création, il est cette parole divine, s'exerçant, manifestant sa puissance, faisant en sorte que l'univers surgisse du néant. Eh bien, ce Dieu si grand, voilà, manifeste l'humilité la plus absolue. Et puis, il y a le service, le moins valorisant, le moins en vue qu'il exerce. Il sert, il est venu pour ça. Quelque part, il dira qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous savez, dans le monde antique, le service, c'était une notion dévalorisée, méprisée, parce que le service, c'était le propre de l'esclave. c'est l'esclave qui servait. Et le maître était servi. Eh bien là, c'est le maître qui se fait serviteur. Et puis, dans ce geste aussi, il y a la patience, le support. Dites, il a levé les pieds de Judas. Vous avez pensé à ça? Le traître. Il a lavé les pieds de Pierre, qui, quelques heures plus tard, avait le renié à trois reprises. Et il le savait. Il a lavé les pieds de tous les autres qui allaient dans quelques instants l'abandonner. Un texte dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Pourtant, il lui avait juré fidélité. Et puis, il y a dans ce geste aussi la miséricorde. À part Judas, je pense qu'on peut dire à propos de Judas qu'il a commis le blasphème contre le Saint-Esprit, parce qu'il est venu à cet endurcissement extrême. Mais quant aux autres, ils seront pardonnés et réhabilités. Alléluia! Il y a de l'espoir pour nous tous. Hein? Des fois, allez, quoi, ça vous arrive, moi aussi. On se trouve si peu brillant, c'est pas vrai? Si peu remarquable, tout chrétien que nous voulons nous affirmer. Mais même alors, eh bien, nous pouvons encore, quelle que soit la mesure de notre misère, être l'objet de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Dans le verset 14 et le verset 15, Jésus dit ceci, « Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que dit le texte? Compte tenu du contexte culturel et historique, ce que Jésus a fait, je viens de l'évoquer d'ailleurs, c'était le travail d'un esclave. Et vous savez, parmi les esclaves, il y avait une espèce de hiérarchie. Certains, parmi les esclaves, occupaient de hautes fonctions. Certains, parmi les esclaves, jouissaient de la faveur, de l'amitié même de leur maître. Rappelez-vous ce centurion romain qui vient vers Jésus afin que Jésus guérisse son serviteur, en fait son esclave. Et le texte dit, auquel il était très attaché. Vous voyez, il y avait une affection là. Mais pour d'autres esclaves, ils étaient moins que rien, du bétail. Et généralement, dans une grande maison, ceux qui étaient chargés de laver les pieds empoussiérés des visiteurs qui entraient dans la maison, c'était ceux qui étaient au plus bas de la hiérarchie, de l'échelle sociale. Parmi les esclaves, c'était les plus misérables. Eh bien, c'est cette place-là, c'est cette fonction-là que Jésus a accepté d'exercer. Ça, c'est ce que dit le texte. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous, dans notre contexte actuel, pour nous, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus nous demande de nous laver les pieds les uns aux autres? Est-ce qu'il s'agit, au sens littéral, ce matin, de venir avec tout un tas de baquets, de serviettes, et puis allez, on va faire la cérémonie du lavage des pieds? Je vous vois sourire. Dans certaines communautés, ça se pratique. Ça se pratique. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, quoique, s'il fallait le faire, hein? Si les circonstances l'exigeaient, par exemple, à l'égard d'un frère ou d'une sœur en Christ malade, à l'égard d'un handicapé, il faudrait être capable de le faire. Mais au-delà de cet aspect particulier, quand Jésus dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que je vous ai fait », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit pour nous de manifester le même état d'esprit, la même mentalité, les mêmes qualités de cœur, les mêmes sentiments, les mêmes attitudes, les mêmes dispositions que celles du Seigneur Jésus. On va lire, si vous voulez, ce texte que j'ai cité tout à l'heure, dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Voilà, Philippiens chapitre 2, verset 5. Il est dit ceci, au même verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'esclave, une condition d'esclave. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'état d'esprit, la mentalité, la forme de pensée, les attitudes, les motivations qui émanaient du Seigneur Jésus. Il s'agit donc pour nous, comme ce fut le cas pour lui, de se dépouiller. De quoi se dépouiller? Eh bien de se dépouiller par exemple de toute prétention, de toute illusion sur soi. Apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dira « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas voir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de grâce que Dieu a accordée à chacun. » Vous avez remarqué comme c'est facile d'être imbu de soi. C'est facile d'être orgueilleux. C'est pas vrai? Oui ou non? C'est facile de se laisser envahir par quelques pensées d'élévation à propos de sa petite personne. Voilà, devant un succès, devant une réussite, devant quelque chose que nous avons fait peut-être, de bien, de bon. Mais dans le cadre du service de Dieu, c'est si rapide pour que des pensées de vanité s'élèvent de nos cœurs. Eh bien, il faut savoir mettre tout ça en veilleuse. Et se dépouiller de toute prétention, toute illusion. Quels que soient nos succès, si tant est que nous ayons du succès, quelle que soit notre efficacité, quel que soit notre talent dans un domaine ou dans un autre, vous savez, il faut que, pas seulement en parole, mais en vérité, toute gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Il s'agit, comme lui, d'être capable de s'abaisser. N'aime pas ça. Mais pourtant, il y a une règle, un principe constant dans la parole de Dieu qui va, c'est vrai, à l'encontre, à l'opposé extrême des principes du monde. Cette règle, dit, elle est répétée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Dans le texte que nous venons de lire, dans l'Épître aux Philippiens, il est question, au final, de l'élévation de Jésus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous vous notez bien que cette élévation, elle était précédée de l'abaissement et de l'humiliation. Et le chemin qu'il a connu, eh bien nous devons nous appliquer à le connaître nous aussi. L'abaissement, l'humilité de Jésus, elle doit être reproduite en nous. Je parlais de l'orgueil. L'Écriture dit que Dieu résiste. Il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Vous savez, quand on veut faire la forte tête avec Dieu, on peut le payer cher. Hein? Je pense pouvoir dire, vous rappeler de l'histoire de Jonas, que quelque part cet homme, ce prophète récalcitrant, il y avait en lui une forme d'orgueil, d'élévation, d'exaltation de soi. Dites, Il a voulu fuir loin de la face de l'Éternel, comme si c'était possible ça. Loin de Dieu. Mais pauvre fou que tu es, même si tu vas au bout du monde, Dieu te retrouvera toujours. Et on sait comment cet entêtement, cette obstination, cet orgueil a fait que Dieu a dû employer pour le contrer, lui résister des mesures extrêmes. Et il s'est retrouvé en stage pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Ça l'a fait réfléchir. Et ensuite, il a acquis un peu plus de modération et de soumission. De soumission. L'humilité, elle a des sœurs jumelles, ou des triplées, comme vous voulez. Il y a l'humilité, il y a la douceur, et il y a la patience. Et tout ça, vous voyez ça. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis doux et humble de cœur ». Je suis doux et humble. Attention, il a dit « Je suis doux », il n'a pas dit « Je suis mou ». Vous avez noté, je le lisais ces jours-ci, combien... Quand il s'adresse aux pharisiens, oh mes amis, à 7 reprises, je crois, il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et puis, il leur applique le tarif. Il y a là une autorité, il y a là une vigueur. C'est pas qu'il les aimait pas, ces gens-là, mais il voulait les arracher à leur bigoterie hypocrite pour qu'ils parviennent à la lumière de la grâce. Et pourtant, il était doux et humble de cœur. Imitons-le. La patience, le support, la douceur, l'esprit de service. Et nous l'avons noté, le service le plus humble, le service d'un esclave, le service le moins considéré, le service le moins valorisant, le service qui apparaît le moins important. L'Écriture dit... Par la charité, rendez-vous serviteurs les uns des autres. J'en profite pour dire que, quand même, c'est un paradoxe, ça. Que sur une assemblée de 120, 130, 140 membres inscrits, on arrive à trouver si peu de gens, par exemple, pour faire le ménage, pour garder les tout-petits à la garderie, ou pour accomplir quelque autre tâche que l'on pourrait juger à tort. Subalterne, rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Serviteurs, serviteurs. Et puis il y a la miséricorde. Eh oui, le Seigneur attend que nous soyons miséricordieux les uns à l'égard des autres. Vous savez quoi? J'ai besoin de votre pardon. Et vous avez besoin du mien. Aussi gentil que vous soyez un de ces jours, vous allez offenser quelqu'un. Et vous aurez besoin de sa miséricorde. Et aussi gentil que vous soyez un jour, quelqu'un vous offensera. Et vous aurez besoin de lui faire miséricorde. Mais la règle est celle-ci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous voyez, il y a tout ça là. Il y a tout ça dans ce texte. Et on en revient à cette parole, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus va conclure en disant, vous êtes heureux. Il nous veut heureux. Amen. Si vous savez ces choses, gloire à Dieu, sommes heureux, sommes privilégiés parce que Dieu nous a ouvert l'esprit. Il a illuminé notre intelligence spirituelle pour que nous comprenions les vérités les plus élevées. Mais il ajoute, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Pourvu.
Pourvu. Pourvu que vous les pratiquiez. Alors il ne s'agit pas de dire, oh, c'est un passage sublime. Prenez compte, Jésus qui lave les pieds des disciples. Que c'est beau, mais que c'est beau.
Pourvu que vous les pratiquiez. Seigneur, aide-moi, aide-nous, non? Pour que nous pratiquions ça, le dépouillement, l'abaissement, l'humilité, la douceur, la patience, le support, le service, la miséricorde et plein d'autres choses avec. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir
l'intention, on dit que l'enfer n'est pavé de bonnes intentions. Mais nous voulons par ta grâce passer à l'action. Et vous savez quoi? Le Seigneur veut nous aider. Amen. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Bien sûr que face à ça, on dit, Seigneur, mais oh, où j'en suis, moi? Il me manque tout là-dedans. Mais le Seigneur n'est pas contre nous. Il est pour nous. Il le sait, mais il le sait, mais il le sait plus que nous ne le savons, que nous sommes pétris de misère, d'incapacité, de faiblesse, de pauvreté, quoi, rien du tout. Un jour, un frère disait, Seigneur, montre-moi ce que je vaux. Et il passait dans la rue et une fenêtre était ouverte. Et par la fenêtre, il a entendu une voix qui disait, rien, rien et moins que rien. Quelle réponse! Et c'est vrai, par nous-mêmes, mes amis. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon à attendre de la chair. L'Écriture dit qu'elle est hostile envers Dieu, qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu parce qu'elle ne le peut même pas. Mais gloire à Dieu, il a fait habiter en nous son esprit. Et c'est son esprit qui veut produire en nous ces vertus, ces qualités que nous venons d'énumérer, qui se trouvaient au plus haut point en la personne de Jésus et que le Saint-Esprit veut reproduire en nous. Alléluia! Vous êtes heureux pourvu que vous pratiquiez, si vous savez ces choses, pardon, pourvu que vous les pratiquiez. Voulez-vous que nous prions le Seigneur quelques instants dans ce sens ?